Toujours à l'écoute du réseau FM+, que vous soyez sur le 91 MHz, l'agglomération Montpellier-Rennes, Radio FM+, ou bien sur le 103.1, agglomération Nîmoise, Radio Alliance+. Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas. Et nous sommes au chapitre donc masculin-féminin pour cette deuxième partie. Et juste avant la fin de la première partie, donc on parlait de ce mélange masculin-féminin où l'homme devient femme, où la femme devient homme. Et puis pendant la pause musicale, je me suis souvenu du nom, la manière dont on appelait ces hommes-femmes en Polynésie, on les appelait les Rere ou les Vaine Maru. Donc voilà. Mais généralement, c'est l'appellation Rere.
Vous avez fait l'itinéraire de Gauguin, de Paul Gauguin.
Voilà.
Voilà. Oui, c'est très bien. Bon, pour ce fameux Tirésias, il avait été d'abord femme, et puis, il est devenu homme, et alors on lui posait la question, qui a le plus de plaisir physique dans l'acte de chair, l'homme ou la femme? Il a répondu, bien sûr, la femme, hein. Et alors c'est dès lors que Héra, ou Junon, la femme de Zeus, l'a aveuglé, hein, pour avoir dit une vérité. Mais il a quand même eu, après, le pouvoir de divination, hein. Aveugle, mais alors il y a un texte d'Apollinaire qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias qui montre bien justement cette androgynie. Mais vous la voyez par exemple actuellement, l'androgynie encore, en naguère on la voyait dans le cas des castrats, hein. Ces castrats qui avaient un corps d'homme mais une voix de femme, hein. Bon, à Naples par exemple, vous voyez Porporino, les mystères de Naples de Dominique Fernandez par exemple, hein. Donc les castrats incarnaient le féminin dans la voix, le masculin dans le corps, et ça devait être assez amusant de voir quelqu'un jouer Hercule dans un opéra par exemple avec une voix si haut perchée. Et alors maintenant on ne pratique plus cette pratique barbare de la castration. On la voyait par exemple dans le film de Gérard Corbiot, Farinelli, vous vous en souvenez de ce film,
hein?
Voilà. Alors on ne la pratique plus, mais il y a quand même des chanteurs qui sont des contre-ténors ou des hautes contres, hein, qui chante avec une voix de tête, paraît-il, et qui nous donne une idée de ce que peut être la voix des anges, hein, puisque les anges n'ont pas de sexe, c'est ça.
Alors, justement, sur ces questions-là, on peut aussi jeter un regard en arrière, et parce qu'on a oublié dans la mémoire humaine qu'il y avait des papesses, au point où ça a amené à vérifier, c'est-à-dire un test de vérification, que c'était bien un homme et non pas une femme.
Ah, oui.
Alors, évidemment, à l'époque, on n'avait pas les mêmes tests ADN qu'aujourd'hui. Donc on vérifiait de manière
visuellement. Voilà. Et je dis en latin, je traduis pas parce que c'est ambae sunt ac bene pendentes. Hein, voilà. Donc au latiniste de traduire pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un homme. Mais regardez le succès qu'ont les chanteurs, certains chanteurs pop par exemple, comme David Bowie, il est très androgyne David Bowie, et vous avez parfois cette voix au perché, hein, qui est une voix féminine. Finalement, la voix de l'enfant avant la mue, du garçon avant la mue, c'est une voix des anges, hein, et après survient la mue. Alors effectivement, ce n'est pas la chenille qui devient papillon, mais le papillon qui devient chenille, en quelque sorte, après la mue, hein. Mais alors, le haute-contre, il y a une pureté, si vous voulez, dans le chant du contre-ténor, qu'il n'y a pas dans la voix féminine. La voix féminine est plus sensuelle à côté, vous voyez, tandis que la voix masculine, ainsi au perché, nous fait entrevoir peut-être le paradis, hein, une voix encore enfantine, qui n'aurait pas mué, vous voyez. Donc, c'est finalement un rêve de toutes les cultures, ça, de réussir unir les deux sexes en un seul, hein, et je pense que les cultures ont tout à gagner à refuser cette séparation absolue et à affecter à chacun un rôle sans qu'il puisse en sortir. Il y a donc une malédiction inhérente au sexe. J'avais dit la dernière fois que c'est une coupure, le sexe, hein, qui, comme toute détermination, c'est une exclusion. Alors, il y a un passage dans l'évangile selon Matthieu qui est très énigmatique à propos des eunuques, hein. Et ce passage suit exactement celui que j'ai cité sur l'indissolubilité du mariage. Alors, voici ce que dit Matthieu, chapitre 19, verset 12. car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Ben oui, il faut essayer de comprendre. Je sais pas si vous avez prêché sur ce passage.
Non, mais c'est...
Il est bizarre, hein. Il est bizarre. Alors, bien sûr, si on avait le malheur de prendre ce texte au premier degré, prendre cette parole au premier degré, eh bien, il faudrait se châtrer, effectivement, pour avoir accès au royaume.
Les anges n'ont pas de sexe.
Oui, comme, voilà. Et il paraît que Origène, hein, s'était châtré lui-même, puisqu'il avait pris ce passage littéralement, voilà, hein, voilà. Bon, mais je pense que c'est symboliquement qu'il faut prendre le terme d'eunuque.
Alors peut-être oui. Juste une remarque au niveau historique, théologique, concernant l'attitude de Jésus. Il faut toujours situer évidemment dans son contexte, mais la question sur l'indissolubilité, c'est face au pharisiénisme. C'est-à-dire chaque fois, on tend un piège à Jésus, par exemple pour la femme adultère, chaque fois on lui dit « la loi dit que ». C'est-à-dire, et c'est vrai qu'on répudiait sa femme, par exemple, une des raisons c'est qu'elle était mauvaise cuisinière et on pouvait la répudier. Donc on utilisait la loi, c'est-à-dire la religion, pour mettre encore en plus en fragilité la femme. Et c'est pour cela que dans le Deutéronome, c'est très 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 fort, on dit le statut de la femme et de l'orphelin est extrêmement à protéger, comme l'étranger d'ailleurs.
D'accord. Et puis alors nous avons cité Kadosh, là, la stérilité de la femme, ou la stérilité alléguée de la femme, supposée de la femme, est un motif de répudiation.
Tout à fait.
Et on ne fait même pas le spermogramme de l'homme pour voir si ce n'est pas lui qui serait fautif.
Alors vous voyez, sur cette question-là, il y a par exemple au Bénin, il y a une peuplade au Bénin où on a résolu la question. On peut vérifier si c'est l'homme ou la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et dans le cas où c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, la femme épouse une autre femme pour que son mari lui fasse des enfants. Oh. Et les enfants qui naîtront de la seconde femme porteront le nom de la femme de la première épouse.
Oh là là, il n'y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que toute notre philosophie n'en saurait rêver.
La structure sociale, un peu comme vous disiez, la structure sociale se dessine selon le caractère, la culture, et il n'y a pas un modèle universel.
Oui, dans le judaïsme, justement, il est interdit d'analyser le sperme, puisque tu ne répandras pas ta semence en vain. Et puis vous connaissez le cas donnant, hein, qui répandait sa semence au sol pour ne pas s'unir à la femme à qui on lui enjoignait de s'unir. Donc, c'est effectivement quelque chose qui nous paraît totalement barbare. Donc, certains aussi, mais c'est pas le cas en milieu protestant, hein, Redouane, tirent du passage de Matthieu un argument en faveur du célibat des prêtres. Hein. Voilà. Alors, cette question est une très grande question qui actuellement fait débat, qui est peut-être responsable de la crise des vocations dans l'Église catholique. Hein. Bien sûr, en milieu protestant, les pasteurs sont mariés, mais je ne sais pas. Vous voyez comment un texte peut être sollicité, peut être instrumentalisé, manipulé dans tel ou tel sens. Hein. Attention, si on réfléchit...
Alors, les prêtres n'ont pas toujours été célibataires, faut
tout
le rappeler
fait.
Aussi.
Et en plus, le célibat ne veut pas dire la chasteté.
Oui, c'est un vœu de célibat et non pas un vœu de chasteté.
C'est deux choses différentes, vous voyez. Hein. Donc, on le sait si bien qu'une bonne de curé doit avoir l'âge canonique, c'est-à-dire l'âge fixé par le droit canon, c'est-à-dire après sa ménopause, hein, pour qu'elle ne puisse plus avoir d'enfant. C'est ça, l'âge canonique, hein, le droit canon de l'Église catholique fixe l'âge des bonnes de curé. Voilà, alors je pense quand même que l'homme a tout intérêt à développer sa partie féminine, hein, et la femme aussi, comme le dit l'Évangile selon Thomas, doit se faire homme. Alors en termes jungiens, l'homme ne doit pas refouler, mais au contraire affronter avec un dialogue intérieur ce que Jung appelle son anima, c'est-à-dire son sentimentalisme, qui est beaucoup plus grand qu'on ne le croit ordinairement. Hein. Et la femme, inversement, doit travailler son animus, hein, c'est-à-dire sa partie masculine, c'est-à-dire sa propension à juger, qui, quand elle n'est pas négociée, se fait de façon hâtive. Alors, je ne veux surtout pas choquer nos auditrices, hein, mais je renvoie tout le monde à ce que dit Jung dans sa dialectique du moi et de l'inconscient, qui est réédité chez Gallimard, en collection Folio Essai, qui a été édité en 1986. Je pense qu'il est toujours disponible, ce livre. Hein. Anima, il y a deux chapitres, Anima et Animus. Anima, c'est la partie féminine de l'homme, animus, c'est la partie masculine de la femme. Mais voici ce que dit Jésus à propos de Marie-Madeleine dans le dernier logion de l'évangile selon Thomas. Simon-Pierre leur dit que Mariam, c'est Marie-Madeleine, sorte de parmi nous parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Et Jésus lui répondit, « Voici que je l'attirerai avant de la rendre mâle, pour qu'elle devienne aussi un esprit vivant, semblable à vous, mâle, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » C'est le Logion 114, je pense que c'est le dernier de l'évangile selon Thomas. Hein, je vérifie. Oui, c'est ça. Hein, c'est le dernier. Hein, j'ai signalé la dernière fois que l'ensemble de l'évangile selon Thomas se trouve reproduit à la fin de mon livre. Voilà. Donc vous voyez que Simon Pierre, qui est le présumé fondateur de la grande église, hein, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », aurait dit Jésus, mais je pense que c'est un Logion qu'on a ajouté pour affirmer la primauté de Pierre, enfin je pense personnellement, hein, tout le monde n'est pas obligé de le penser. Donc ce Simon Pierre, il est phallocrate ou machiste, hein, comme l'ont été beaucoup de ses successeurs. Et contre Simon Pierre, Jésus valorise Marie-Madeleine en la masculinisant, ce qui, dans le contexte de l'époque, signifie mettre la femme à égalité avec l'homme. Et alors vous noterez que cette Marie-Madeleine, c'est la figure féminine préférée de la gnose, ainsi qu'on le voit dans un évangile apocryphe qui lui est consacré et qui s'appelle l'évangile selon Marie. Hein. Et dans l'évangile selon Philippe, elle est appelée compagne de Jésus, à qui Jésus transmet son enseignement, nous dit-on, je cite, en l'embrassant sur la bouche. Hein. Alors là, voilà, ça fait fantasmer, ça. Hein.
Les Russes ont l'habitude de faire ça.
Ah oui, 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 c'est vrai. Mais alors, depuis le Da Vinci Code, hein, on sait que bon, il y aurait eu alors une relation entre Jésus, particulière entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais déjà, dans la dernière tentation du Christ de Kazantzaki, il y a justement cette hypothèse selon laquelle Jésus aurait eu des enfants avec Marie-Madeleine. Hein, voilà, aurait eu une vie normale, ayant été dépendu, encore descendu de la croix, hein, et ses blessures ayant été soignées. Donc, les disciples reprochent à Jésus d'embrasser Marie sur la bouche, et puis Jésus leur répond qu'il voudrait bien faire de même avec eux, qui sont des hommes, mais qu'il n'a trouvé qu'une femme avec qui entrer en symbiose. Voici ce que dit l'évangile selon Philippe, au Logion 55. Ils lui dirent, ses disciples lui dirent, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Et le Sauveur répondit et leur dit, « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» Vous voyez, hein? Alors, ne faites pas un contresens, évidemment, qui serait anachronique sur l'expression « embrasser sur la bouche ». Ça ne signifie pas une intimité charnelle, mais simplement la transmission spirituelle et la fusion corrélative. C'est ce que l'on voit dans le Logion 118 de l'Évangile selon Thomas. Jésus a dit, « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, moi aussi je deviendrai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » Donc Jésus propose une voie pour conjurer ce que j'appellerais la catastrophe du « deux », hein, par retour au « un » primordial, et son interpellation nous touche encore. Voici ce que l'on lit dans le Logion 12 de l'Évangile selon Thomas, « Au temps où vous étiez un, vous avez engendré deux, mais étant alors devenus deux, que ferez-vous hein? » Alors vous savez que deux, par exemple le préfixe latin « di », que vous avez dans « facile »,« difficile »,« facilis »,« difficilis hein, », c'est un préfixe d'un antonyme, qui indique un antonyme, un contraire, vous voyez, hein, comme « dys », « d-y-s », qui est apparenté à « duo » en grec, hein, « dystopie »,« dysfonctionnement »,« fonctionnement »,« dysfonctionnement ». Donc le « deux » est toujours une malédiction, parce que c'est la rupture d'une unité initiale.
Dobitiero males pazaranku. Izvinite man pal sobaka. Nie padumejcie so pal tu mende. Pal sare romende rakira. Tu san za bajkalsko, aj sibirsko. Ай, российско романо чабо. Рикер без приобщи с вида стойна. На мангав не больше ничего. Раньше рома пьена сгули не нас. Найси содиели ни сафе. Zoker diabeaka na romale, na pola sa je kieche same. Tu san za bajkalsko, aj sibirsko, aj rasisko romano šavo. Rike prez priopših zvida stojna, на мангав не больше ничего.
de retour avec Michel Théron, masculin féminin, donc chapitre tiré d'une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, et on a vu donc les différents logion, parce que c'est ainsi que s'appellent ces différents chapitres dans l'évangile selon Thomas.
Les logia.
Et donc on est dans vraiment une problématique très très contemporaine dans ce que vous nous dites de l'évangile de Thomas.
Absolument. Il faut féminiser l'être, hein, ou réunir en une seule entité humaine le masculin et le féminin. Et c'est sans doute une caractéristique essentielle du message de Jésus. À un moment, je crois, Redouane, je parle sous votre contrôle, qu'il dit « Je suis comme une poule qui abrite ses poussins de ses ailes, avec ses ailes. » Vous voyez, c'est très féminin, ça. Hein, c'est maternant, en quelque sorte. Hein, c'est une espèce de papa-poule, en quelque sorte, Jésus. Hein. Dans les évangiles canoniques même, il y a un éloge de l'abaissement, hein, se faire petit. Hein, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé, vous voyez. Romain Gary disait que Jésus est le premier homme à avoir parlé avec une voix féminine. Bon, il ne connaissait peut-être pas, ou il n'avait pas présent à l'esprit, l'enseignement de l'Orient. Mais on a la même chose, par exemple, dans l'enseignement de Lao Tzu. Voyez par exemple la parole 28 du Tao Te King, alors je la cite en entier, elle est très très belle, très très belle. Il y a des textes comme ça qui sont irradiants, magiques, hein, et il faut les méditer pendant des jours, des semaines ou des années. Hein. Bon, il faudrait avoir ça souvent sous les yeux. Alors, connais le masculin, adhère au féminin, sois le ravin du monde. Quiconque est le ravin du monde, la vertu constante ne le quitte pas. Il retourne à l'état d'enfance. Connais le blanc, adhère au noir, soit la norme du monde. Quiconque est la norme du monde, la vertu constante ne s'altère pas en lui. Il retourne à l'état de ce qui n'a pas de limite. Connais la gloire, adhère à l'outrage, soit la vallée du monde. Quiconque est la vallée du monde, la vertu constante est suffisante en lui. Il retourne à l'état de bois brut. Le bloc de bois que l'on débite forme des ustensiles. Le saint qui s'en sert devient le chef des fonctionnaires. C'est pourquoi le grand maître ne blesse rien, vous voyez. Alors, là, l'opposition masculin-féminin est évidente. Hein. La femme, c'est l'homme, c'est le blanc. La femme est plutôt le noir. L'homme, c'est la montagne. La femme, plutôt le ravin. L'homme, c'est la gloire extérieure, la réputation. Adhère à l'outrage, c'est-à-dire la femme est plutôt blessée. Bon, ben, bien entendu, il faut se remettre dans le contexte de l'époque de Lao Tzu. Et elle est la vallée, voilà. Et la vallée est supérieure à la montagne. Hein. Lao Tzu dit toujours que le mou l'emporte sur le dur, et c'est vrai, l'eau par exemple, qui est la chose la plus molle, triomphe du rocher avec le temps, avec les siècles, avec l'érosion, le rocher qui est pourtant la chose la plus dure, hein. Donc Lao Tzu se comparait à un enfant qui tétait sa mère, vous voyez, donc ça c'est une orientation totalement féminine, mais il ne nous dit pas de refuser le masculin, il nous dit d'abord de le connaître et ensuite d'adhérer à autre chose. Et quand il dit que le grand maître ne blesse rien, il parle d'une voix féminine. Il me semble que la femme sent davantage ce que la vie a de précieux, tout simplement parce qu'elle la transmet, hein, et donc ne rien blesser, alors que l'homme lui casse les choses, en quelque sorte, me semble essentiel. Robert Graves, qui est un poète et essayiste anglais, disait « Man does, woman is », c'est-à-dire « l'homme fait et la femme est », ou « l'homme agit et la femme est ». Et en tant que telle, elle ne blesse rien. Par exemple, vous savez, Redouane, comment Nietzsche s'est effondré, a basculé dans la folie. À quelle occasion? Eh bien, il se trouvait à Turin, dans le nord de l'Italie, et il a vu un cocher qui martyrisait un cheval, vous voyez, qui le frappait à coups de fouet. Et alors, il s'est effondré. Hein. Dès lors, il a déliré, il s'est pris, il relève du médecin Aliénis, il s'est pris pour Dionysos ou Jésus, etc., vous voyez. Parce que là, c'est manifestement sa partie féminine. jusqu'alors inconsciente, puisqu'il vantait le surhomme, vous voyez, hein, c'est sa partie féminine qui l'a submergé et qui a pris le dessus, voire un animal battu, par exemple, et s'effondrer, hein, c'est plutôt féminin, me semble-t-il, que masculin, me semble-t-il. Je vous vois hocher la tête. Mais si vous voulez, Nietzsche a renié en quelque sorte le surhomme, qui était un modèle de virilité et qu'il défendait dans son conscient. Hein. Et c'est le cas typique, cet effondrement de Nietzsche, d'un basculement à l'opposé, hein, ou du retour au contraire, que Jung appelait l'énantiodromie, c'est-à-dire dromos c'est la course et énantion c'est le contraire. Donc plus vous voulez être viril dans le conscient, plus vous refoulez votre féminité qui risque de vous submerger.
Ça me fait penser, pour ça que je souris, à une série qui passe à la télévision qui s'appelle Scène de ménage, et dans cette série, il y a un jeune couple, et c'est plutôt elle, on va dire, qui porte le pantalon, et lui qui s'évanouit au moindre choc, et elle, c'est la bricoleuse. Donc on a renversé les rôles, lui c'est le papa poule, et ça correspond tout à fait à ça, je veux dire, on a renversé.
On renverse les rôles, oui. Mais oui, c'est, moi je veux bien, mais ce qui me gêne dans le féminisme, c'est que les femmes veulent justement adopter des valeurs masculines, comme l'agressivité, l'inflexibilité, la violence, etc. Ça me semble quand même problématique. Alors je sais bien que ça succède à des siècles d'oppression. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose, justement, de vouloir changer l'oppresseur, vous voyez, ou le violent? Alors, quand Lao Tzu nous dit « connais la gloire et adhère à l'outrage » ou « sois la vallée du monde », eh bien je pense au Logion 81 de l'Évangile selon Thomas, où on voit cette gradation. On connaît d'abord une chose et puis on la dépasse. Alors, il est très beau ce Logion 81. Celui qui est devenu riche, qu'il devienne roi. Et celui qui a la puissance, qu'il renonce. Vous voyez, qu'il renonce. C'est-à-dire, vous voyez, on monte les échelles, hein, et puis après on abandonne. Et on trouve la même idée dans le Logion 110 de l'Évangile selon Thomas. Jésus a dit, celui qui a trouvé le monde et est devenu riche, qu'il renonce au monde. Voilà, ce renoncement. Et en somme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bas va triompher du haut, la vallée va triompher de la montagne, l'eau du rocher, le mou du dur, etc. Hein. Moi, je crois que ces valeurs masculines, viriles, l'intérêt de ces textes, c'est que ces valeurs ne sont pas niées, hein, comme dans le cas d'un ascétisme ou d'un monachisme qui serait radical, hein, mais elles sont dépassées. On doit d'abord connaître quelque chose, comme dit Lao Tzu, pour adhérer ensuite à autre chose. Par exemple, et on terminera par là, dans Citizen Kane d'Orson Welles, hein, on voit que cet homme qui a bâti un empire de presse, qui est devenu le roi de l'opinion, hein, eh bien, il meurt en prononçant un mot bizarre, c'est Rosebud, un bouton de rose. Bon, et on ne sait pas du tout pourquoi. Ça, c'est le début du film. Après, vous avez un flashback qui montre toute l'ascension de cet homme, et à la fin, après la mort de cet homme, vous avez un travelling sur un grenier où sont entassés plein de vieux objets, et la dernière image, la caméra se fixe sur une luge, la luge qu'il avait étant enfant, où est gravé Rosebud. Hein. Donc vous voyez, cet homme-là, roi du monde, en quelque sorte, au dernier moment, se souvient de l'enfant qu'il a été, hein, que symbolise ce traîneau. Et il faut d'abord faire une chose pour s'apercevoir après du néant de cette chose.
Merci Michel, et on est loin d'avoir fini avec le sujet, puisque nous reviendrons la semaine prochaine en troisième partie, hein, jamais 203, pour continuer à réfléchir sur cette question-là. Et on le voit maintenant qu'on va rentrer dans les fameuses élections, que sur les affiches, j'ai constaté, il y a toujours la photo d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire la parité est devenue la nouvelle donne de notre société, et petit à petit, il a fallu imposer, hein, faire payer des amendes avant d'arriver au parti, avant d'arriver à cette égalité vis-à-vis du politique.
C'est des listes Shabada, comme on disait. Voilà.
Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission, vous pouvez le faire en allant sur le podcast de la radio, sur le site de la radio. Et sinon, nous, entre-temps, on se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même longueur d'onde. Au revoir.
Au revoir à tous.